Bien, bonsoir. Juste avant de commencer le propos de la séance d'aujourd'hui, une précision par rapport à la semaine dernière, les extraits que j'ai passés la semaine dernière. Donc c'était la musique de Wagner. Avant que tout le monde arrive, j'avais passé différents extraits. Et puis pendant le cours, j'avais passé un extrait de Siegfried Idyll. Donc l'interprétation, c'était l'Orchestre Philharmonique de Munich sous la direction de Sergiu Slibidace, un enregistrement de 1993. Voilà, je vais donner maintenant les références des extraits que je passerai. Alors la séance d'aujourd'hui, elle est consacrée au philosophe qu'on associe le plus fréquemment à Wagner, qui est donc Friedrich Nietzsche. Alors, cette association, elle est immédiate du fait, tout d'abord, que les deux hommes se sont connus, se sont beaucoup fréquentés une époque, pendant une période d'à peu près 3 ans. Et puis, surtout, Nietzsche a été un fervent admirateur de Richard Wagner. Il a trouvé son inspiration dans ses œuvres. Mais également, ce qui est important, c'est que, finalement, ils se sont fâchés. Et après avoir expliqué pourquoi il admirait tant Wagner, Nietzsche a expliqué pourquoi il en était venu à le détester autant. Donc au fil des textes de Nietzsche, on voit évoluer sa position sur Wagner, et donc c'est le fil chronologique que je vais adopter pour évoquer leur rapport, hein, et je m'arrêterai sur les principaux textes que Nietzsche a consacrés à Wagner. Il faut également garder à l'esprit que, alors c'est quelque chose qui est valable pour Nietzsche comme pour tout auteur, simplement c'est plus aigu chez lui, le texte de Nietzsche est indissociable de la personnalité de son auteur et du contexte de son écriture. Alors, pour Nietzsche, ça veut dire aussi de son état de santé et de l'état d'avancement de ses problèmes mentaux. Alors, présenter les œuvres où Nietzsche engage un dialogue qui devient progressivement polémique avec Wagner, ça permettra aussi, hein, c'est peut-être même le principal enjeu, de présenter des aspects de sa philosophie, parce que la discussion du cas Wagner, hein, le cas Wagner c'est le titre d'un des livres de Nietzsche, la discussion du cas Wagner engage des thèmes qui traversent toute l'œuvre de Nietzsche, comme la question de la vie, ou ce qu'il appelle aussi la volonté de puissance, les questions de la décadence, du nihilisme, de l'aristocratisme, qui sont parfois davantage développées dans d'autres ouvrages. Hein. Donc en fait, Wagner, c'est une porte d'entrée à la pensée de Nietzsche, c'est pas la porte d'entrée principale, sans doute, mais néanmoins, c'est celle que je vais essayer d'ouvrir. Et voilà, cette séance sera aussi une espèce d'introduction à la pensée de Nietzsche. Alors, je l'ai dit, c'est une pensée qui est indissociable de son auteur, hein, de l'état de santé notamment de son auteur. Donc, je vais commencer par donner quelques indications sur la biographie de Nietzsche, notamment dans son rapport à Wagner, et puis dans un deuxième temps, l'essentiel de la séance, ça sera de passer donc un peu en revue les différents ouvrages, les différents textes dans lesquels Nietzsche évoque principalement Wagner et son œuvre. Alors Nietzsche, il naît le 15 octobre 1844 à Rocken, une ville près de Leipzig. Son père est pasteur. Et il meurt en 1850 après une maladie qui l'a laissé l'esprit égaré pendant un an, d'où l'hypothèse que la démence dont Nietzsche finira par souffrir était héréditaire. Alors, on n'a pas véritablement un diagnostic sûr sur l'origine des troubles mentaux de Nietzsche. C'est une des pistes qui est soulevée. Alors la même année, donc en 1850, le frère cadet de Nietzsche meurt lui aussi. Donc ce qui veut dire qu'il, Friedrich, va passer son enfance avec sa mère et sa sœur, Elisabeth, et ça va aussi pas mal marquer sa personnalité de vivre essentiellement avec des femmes pendant toute sa jeunesse. Alors il poursuit des études brillantes, il hésite entre la théologie et la musique, parce qu'en effet il joue du piano, il compose. Et plus tard, bon c'est une anecdote mais qui peut être significative, plus tard il fera écouter ses compositions à Wagner et on a dans les souvenirs de Cosima, l'épouse de Wagner, des anecdotes comme quoi ça les a beaucoup fait rire, Richard et elle, parce qu'ils ont trouvé que la musique de Nietzsche était exécrable. Donc ils ont rigolé dans son dos. Wagner a gentiment conseillé à Nietzsche de plutôt privilégier son côté philosophe plutôt que musicien. Aussi une des hypothèses des origines de la brouille, c'est que Nietzsche se serait vexé que Wagner tienne sa musique en si faible estime. Alors, donc je l'ai dit, il hésite, j'en reviens à sa période de jeunesse, de formation, il hésite entre différentes choses, notamment la théologie, mais sa foi va progressivement entrer en crise et il en viendra assez vite à rejeter le christianisme, ce qui entraînera de fréquents conflits avec sa mère. Quand il est étudiant, il commence aussi à souffrir de violents maux de tête et de troubles visuels. C'est aussi le moment où ça fait partie, je dirais, de l'identité d'étudiant de l'époque. Hein, on avait vu ça aussi chez Wagner la semaine dernière. On l'emmène au bordel où il aurait contracté une syphilis qui serait, là aussi c'est une autre des hypothèses, responsable à long terme de sa démence. Hein, parce que dans le développement de la syphilis, il y a des troubles mentaux qui apparaissent. Alors, c'est un étudiant extrêmement brillant et en 1868, à 24 ans, il est recruté comme professeur de philologie à l'université de Bâle, en Suisse. Et c'est dans ce contexte qu'il va rendre visite à Wagner, qui est son presque voisin. Hein, c'est une époque où Wagner est obligé de vivre en Suisse. Et Nietzsche a découvert peu auparavant la musique de Wagner et il a été très fortement impressionné par cette musique. Et c'est plein de dévotion à l'égard de Wagner qu'il va se rendre à la villa que Wagner occupe avec Cosima près de Lucerne. Ils sympathisent rapidement, Nietzsche devient un intime de la famille qu'il visite régulièrement. Ils ont de longues discussions et il se trouve des points communs, notamment autour de la philosophie de Schopenhauer. Et dans l'idée aussi d'une régénération de la nation allemande par la culture. Alors, Schopenhauer, donc je donne les dates, hein, 1788 est mort en 1860, c'est un philosophe allemand qui les inspire tous les deux, mais à l'égard duquel Nietzsche progressivement va prendre une très nette distance, hein, il va même adopter une position opposée. C'est-à-dire que pour Schopenhauer, qui est athée, l'existence procède d'un principe général qui est la volonté, mais l'existence est absurde, elle est dominée par la souffrance. Et l'idée de plaisir est une illusion. Ce qui amène Schopenhauer à valoriser la compassion, d'une part, et à fournir comme débouché logique de cette philosophie, qui est inspirée par le bouddhisme, c'est une posture de retrait par rapport au monde. Alors, Nietzsche partage avec cette philosophie l'idée d'une absurdité de l'existence, mais on le verra tout à l'heure, il va rompre progressivement avec son pessimisme pour envisager l'affirmation de la volonté comme quelque chose de davantage positif. Et l'affirmation de la volonté, qui passe notamment par la création artistique, par l'art, apparaît comme un surpassement de cette absurdité constitutive de l'existence. Bon, je reviens aux relations entre Nietzsche et Wagner. Par exemple, Wagner convertit Nietzsche au végétarisme, mais avec l'idée de la compassion aussi, hein, qui est présente dans la philosophie de Schopenhauer. Faut pas avoir de la commisération, de la compassion à l'égard de ce qui nous entoure et notamment des animaux. Et ça, c'est quelque chose que plus tard, Nietzsche rejettera violemment, hein, l'idée du végétarisme. Alors, ça fait un peu curieux de trouver ça dans les textes d'un philosophe, mais il rejette violemment le végétarisme comme un indice de faiblesse, de commisération chrétienne et de dégénérescence de la volonté. Donc, c'est des choses sur lesquelles je reviendrai. En 1870, Nietzsche est infirmier, il s'engage comme infirmier volontaire pendant la guerre franco-prussienne. Mais il tombe rapidement malade. Mais pendant cette période où il est infirmier, il prépare, il commence à envisager le livre qu'il publiera en 1872, qui s'appelle La naissance de la tragédie, livre sur lequel je reviendrai tout à l'heure. qui s'ouvre sur une dédicace véritablement dévote à l'égard de Richard Wagner. Il le décrit comme un ami vénéré, comme un lutteur sublime qu'il a précédé dans la voie explorée dans le livre. Autre ouvrage hagiographique à l'égard de Wagner, que j'évoquerai là aussi tout à l'heure, Les considérations inactuelles, qui sont écrites entre 1873 et 1876, qui sont des portraits critiques ou hagiographiques, dont l'un est consacré à Schopenhauer et l'autre donc à Wagner et à son projet de Bayreuth, donc qui, je le rappelle, n'est pas situé au bord du Rhin, contrairement à ce que j'avais pu dire la semaine dernière. Alors Wagner, c'est à peu près cette période-là, vers 1876, qu'il quitte la Suisse pour se rendre à Bayreuth. Ça suspend leur relation, et puis surtout Nietzsche commence à porter un regard plus critique sur Wagner, et notamment à l'égard de l'entreprise de Bayreuth elle-même. Alors, il y a d'autres raisons plus personnelles qui sont évoquées par les biographes dans cette prise de distance, parce que Wagner se serait montré indiscret à l'égard des problèmes de santé de Nietzsche, il aurait fait des hypothèses sur sa sexualité, notamment que ça serait lié à trop de masturbation, parce qu'on est en pleine panique morale sur la dégénérescence que provoquerait la masturbation, il suspecte aussi des penchants homosexuels. Wagner, semble-t-il, aurait eu vent de ses indiscrétions de... Nietzsche aurait eu vent de ses indiscrétions de Wagner et l'aurait très mal pris, ce qui peut se comprendre. Bon. La principale, en tout cas, la principale cause de rupture entre les deux, celle-là, elle est davantage attestée parce que Nietzsche, en tout cas, il fait référence et la développe, c'est que... Après la fondation du festival de Bayreuth, Wagner s'est lancé dans la création de ce qui sera son dernier opéra qui est Parsifal, donc qui est un opéra très chrétien, et ça pour Nietzsche c'est une trahison. Parce que c'est un opéra donc qui est inspiré par le roman du Graal, avec le Graal, c'est ce calice qui aurait recueilli le sang du Christ sur la croix, et puis que les chevaliers de la table ronde ont cherché pendant très longtemps. Vous pouvez vous référer soit à Chrétien de Troyes, soit au Monty Python pour trouver le thème. Bon, le problème, c'est qu'entre-temps, Nietzsche est devenu très violemment antichrétien. Il rejette le christianisme comme une religion du ressentiment, alors que toute sa philosophie exalte la positivité de la vie. Il vit ce tournant chrétien de Wagner d'autant plus mal que ça apparaît même pas sincère de la part de Wagner. C'est-à-dire, bon, ça c'est cité par Adorno, Wagner aurait dit à Nietzsche, les Allemands ne veulent à présent rien entendre des dieux et des héros païens, ils veulent voir quelque chose de chrétien. Bon, et donc Nietzsche aurait très mal pris parce que c'est même pas sincère, c'est en une logique, entre guillemets, le terme est trop fort, mais commerciale, qui aurait amené Wagner à quitter les dieux païens de la tétralogie pour s'intéresser au Graal. Et puis la rupture, elle est consommée vers 1878, quand Nietzsche envoie son nouveau livre, qui s'appelle « Humain trop humain » à Wagner, qui ne répond pas, et pour cause, parce que ce sont des idées nouvelles qui prennent le contre-pied de celles qu'il partageait au moment de leur amitié, qui sont donc avancées dans ce livre. Et Cosima, de son côté, suspectera que Nietzsche a été corrompu par des idées juives dans ce livre, et l'antisémitisme de Wagner, qui est entretenu par sa compagne, est aussi quelque chose qui heurte Nietzsche. Et donc il n'y aura plus de correspondance ou de lien entre les deux, si ce n'est que Nietzsche va être de plus en plus critique à l'égard de Wagner dans ses écrits. Alors Nietzsche est atteint de crises violentes, il est proche de la mort en 1875, ça a été vraiment très, très dur pour lui. En 1879, il quitte son poste de professeur en bénéficiant d'une sorte de pension d'invalidité, et il va commencer à voyager vers le sud, en France, en Italie, à Nice, à Venise, à Turin. Il espère que le climat sera meilleur pour sa santé. Il poursuit la rédaction de ses ouvrages, qui sont en grande partie sous forme d'aphorismes et dont certains visent Wagner et le wagnérisme. Et donc il rédige un ouvrage qui est spécialement dédié à Wagner, hein, avec lequel il règle ses comptes, il s'appelle « Le cas Wagner ». C'est un livre qui est prêt en 1888. Il a aussi d'autres ouvrages qui sont prêts, sur lesquels il travaille en tout cas à la même période, hein, « Le crépuscule des idoles »,« L'antéchrist » et « Ecce Homo ». Mais Nietzsche ne pourra jamais assurer leur publication parce qu'il est atteint d'une crise de folie à Turin, début janvier 1889, hein, il y a une anecdote célèbre, c'est que le moment de la crise, il voit dans la rue un cocher qui est en train de frapper son cheval et il se pend au cou du cheval. Mais ça fait déjà quelque temps que ses amis sont un peu inquiets parce que il écrit des lettres assez délirantes, qu'il signe Dionysos ou Zarathustra, donc ça inquiète un petit peu. Donc ses amis viennent le rejoindre à Turin et le font hospitaliser. Et il sombre de plus en plus profondément dans la folie, et donc il meurt en 1900. Alors, dans le cas de Nietzsche, j'avais évoqué l'héritage de Bayreuth dans le cas de Wagner. Dans le cas de Nietzsche, il y a aussi un problème d'héritage, hein, notamment avec sa sœur Elisabeth, qui va préparer l'édition posthume de certains de ses textes et qui va tronquer la pensée de Nietzsche en lui donnant un tour notamment antisémite et en les rendant appropriables par l'idéologie nazie. Voilà, donc c'était pour cadrer un peu la biographie de Nietzsche. Je vais passer maintenant au contenu des principaux écrits sur Wagner, ou en tout cas dans lesquels le cas Wagner occupe une place majeure. Donc le premier ouvrage, c'est La naissance de la tragédie, où ce sont des considérations esthétiques en forte affinité avec celles de Wagner qui sont exprimées. Hein, donc j'ai dit, Wagner est le dédicataire du livre, et on trouve de nombreuses allusions à ses opéras dans le texte, hein, de manière soit incidente ou plus centrale, bon, les maîtres chanteurs, Siegfried, ou Tristan et Isolde. Mais ça reste un livre pleinement nietzschéen et on y trouve déjà des thèmes et des références que Nietzsche va maintenir après sa brouille avec Wagner. Donc le sujet du livre, c'est la forme artistique de la tragédie grecque qui, selon Nietzsche, a connu un net déclin à partir d'Euripide après un apogée qu'il date avec Eschyle. Et ce qui fait l'apogée de cette forme artistique, c'est l'association de deux figures qui sont pourtant opposées, qui sont ces deux figures d'Apollon et de Dionysos. C'est-à-dire que ces deux divinités grecques constituent, selon Nietzsche, la double source de l'art grec, et malgré qu'elles incarnent des styles contraires et presque toujours en conflit, elles ont contribué par leur association à cette œuvre supérieure, donc qui est la tragédie athénienne. Alors Apollon, d'abord, ça représente pour Nietzsche le monde des rêves, de l'harmonie idéale. Parce que le rêve, c'est le domaine de l'idéalisation, de l'harmonie, celui où l'on peut transformer la réalité en un jeu sur les apparences pour la rendre plus belle, plus idéale. Et Nietzsche prend l'exemple de la statuaire où on peut créer dans le marbre une représentation du dieu qui est une magnification de son image. Apollon, c'est le dieu de la beauté, du soleil et de la lumière, donc de l'apparence, et c'est le dieu de ce qui se donne à voir sous la plus belle forme, sous la plus belle et calme harmonie. Je cite Nietzsche, « La vision, le beau, l'apparence limitent le domaine de l'art apollinien. C'est le monde transfiguré de l'œil qui, en rêve, les paupières fermées, crée en artiste. » Et donc c'est le domaine privilégié des arts plastiques. Alors à l'inverse, Dionysos, c'est le dieu de l'ivresse et de l'extase. C'est le dieu de la démesure. C'est aussi le dieu du déferlement des forces de la nature. On représente parfois Dionysos sous les traits d'un satyre. C'est aussi le dieu de la communauté, via la fête orgiaque. C'est-à-dire que cette fête fait communiquer, s'unir les individualités, plutôt que de les maintenir séparées. Dionysos également, c'est un dieu qui vient d'Asie et qui vient bousculer la belle apparence apollinienne. Et le dionysiaque vient contester l'apollinien, tout ce qui relève de la mesure et de l'harmonie du côté de l'apollinien est bousculé, remis en cause, contesté comme par le Dionysaque comme quelque chose d'artificiel. Alors que, nous dit Nietzsche, la démesure, donc Dionysos, se révéla être la vérité. Alors déjà, on repère quelque chose qui est fréquent dans la pensée de Nietzsche, c'est de prendre le contre-pied des idées communes. Ce qui se présente, par exemple, alors c'est pas le cas ici, mais ce qui se présente comme le bien ou la force peut être le mal ou la faiblesse. D'où l'idée qu'on retrouve notamment dans le Crépuscule des idoles de l'inversion des valeurs. Ou l'idée que le mensonge et l'apparence peuvent être préférables à la vérité. Donc finalement, le Dionysaque, la démesure, peut être plus intéressant que la mesure et l'harmonie. Alors, le Dionysaque, il s'exprime et il se rencontre principalement dans la musique, où l'irruption de Dionysos bouscule la musique fantomatique apollinienne, je cite Nietzsche, qui est basée sur la psalmodie mesurée, alors que le Dionysiaque va puiser son inspiration dans le rythme et les sons de la musique populaire, dans les danses des bacchanales. Et je cite Nietzsche, « Un art qui, dans l'ivresse extatique, disait la vérité, mit en fuite les muses des arts de l'apparence. Dans l'oubli de soi propre aux états dionysiaques, l'individu disparut avec ses limites et ses mesures. Un crépuscule des dieux approché. » Bon, référence à Wagner, évidemment. Alors la tragédie, de ce point de vue-là, c'est une forme esthétique qui exprime l'idée de la souffrance sous des formes qui peuvent être dionysiaques ou apollinienne, résulter d'un accommodement plus ou moins équilibré entre les deux sources d'inspiration. Et par la médiation de l'artiste, et c'est le sommet de la tragédie grecque selon Nietzsche, on assiste à un accouplement entre les deux formes d'apparition de la volonté, avec pour résultat de créer une possibilité supérieure d'existence et de parvenir à sa magnification. C'est-à-dire que la tragédie nous décrit une situation de souffrance, mais qui est transfigurée par l'art. C'est-à-dire que ça devient un plaisir esthétique que d'assister à une intrigue qui est fondée sur la souffrance des personnages, des protagonistes de l'œuvre. Et par l'union d'Apollon et de Dionysos, ce n'est plus l'art de l'apparence, mais l'art tragique qui réalise cette magnification, qui absorbe en lui-même l'art de l'apparence, dans le même temps que chant et danse ne sont plus ivresse instinctive de la nature, puisque Apollon a imposé une limite à des mesures de Dionysos. C'est-à-dire que les deux s'équilibrent, trouvent finalement quelque chose, une composition qui arrive à une magnification de la souffrance nous raconte la tragédie. Donc l'intrication de deux tendances opposées, la mesure et la démesure, permet de produire une nouvelle forme d'art, un nouveau registre de tragique, si on veut, qui dépasse leur opposition dans une, nous dit Nietzsche, symbolisation de la vérité de l'existence. Et cette symbolisation de la vérité, elle trouve dans la musique son meilleur intermédiaire, parce que la musique est la forme esthétique qui est la mieux à même d'exprimer le mouvement originel de la volonté. Alors, volonté au sens de Schopenhauer, d'abord, mais progressivement, on y reviendra ensuite, volonté de puissance, c'est-à-dire la vie. Quand Nietzsche parle de volonté de puissance, alors, déjà, éviter les contresens, c'est la puissance qui veut, qui s'exprime. L'autre manière, en tout cas c'est la lecture que fait Gilles Deleuze de Nietzsche, dans son bouquin Nietzsche et la philosophie, la volonté de puissance c'est le synonyme de la vie. Alors où j'en suis? J'en suis dans les distances par rapport à Schopenhauer qui est, lui aussi il trouve que la volonté est au principe de la vie mais qui en a une lecture pessimiste. Chez Nietzsche on en a progressivement une lecture optimiste. Parce que cette expression de la volonté de puissance, cette expression de la vie, elle repose, je cite, « Toute vie repose sur l'apparence, sur l'art, sur l'illusion, sur l'optique, sur la nécessité perspectiviste et sur l'erreur. » Et il dit aussi, alors ça c'est dès la dédicace donc à Richard Wagner de ce livre « La naissance de la tragédie », il dit que « je tiens l'art pour la tâche suprême et l'activité proprement métaphysique de cette vie ». C'est-à-dire, pour simplifier la pensée de Nietzsche, c'est l'art qui donne un sens à l'existence, qui sinon serait absurde. Parce que l'art est l'expression de la vie. Une des formes d'expression de la vie. Alors, dans la tragédie, en tout cas à son sommet, on a une union d'Apollon et de Dionysos, mais avec, parce que vous sentez quand même que Nietzsche est davantage du côté Dionysos qu'Apollon, hein, avec une domination du second sur le premier. Mais on assiste, selon lui, à un déclin de cette forme esthétique, avec un renversement de ce rapport de force entre les deux divinités, ou entre les deux sources d'inspiration, hein. Ce sont juste des symbolisations de ces inspirations, on a un renversement progressif de cette domination avec l'apparition d'une domination de la mesure, donc d'Apollon, sur la démesure, donc Dionysos. Et ça se révèle avec Euripide, qui est désigné par Nietzsche comme du socratisme esthétique. Et c'est l'influence de la pensée rationnelle mesurée de Socrate qui en est le symptôme. Alors, Socrate, c'est un des grands ennemis, des grandes têtes de Turc de Nietzsche. Il dit de Socrate que dans son œil n'a jamais brillé la douce folie de l'inspiration esthétique. Vous voyez comment on retrouve cette idée que l'art est l'expression sublimée de la vie, mais que c'est aussi avec la folie, la démesure, que ça s'exprime le mieux. Or, Socrate, précisément, c'est l'inverse. Il y a une tendance chez lui anti-dionysiaque, parce que c'est la vertu et la mesure qu'il incarne, de même que la dialectique et la science. Chez Socrate, tout est mesure et pondération, tout est basé sur la vertu et le savoir. Et chez lui, l'idée prime sur la vie, alors que chez Nietzsche, c'est la vie qui doit primer sur tout. Et donc il stigmatise Socrate comme un homme théorique, parce que c'est l'idée qui prime donc sur la vie. C'est la rationalité contre l'instinct. C'est la mesure contre la démesure. Et avec Socrate, je cite Nietzsche, il y a la mort de la tragédie. Et il dit que la naissance d'un Socrate artiste est quelque chose de contradictoire en soi. Donc il s'oppose dans ce livre, comme il le fera dans d'autres, et notamment dans La généalogie de la morale, qui est un livre plus tardif, il s'oppose à la conception théorique du monde qui est défendue par Socrate, et à cette conception du monde, il oppose une conception tragique. Il dénonce le socratisme de la morale, dans lequel il voit la suffisance et la sérénité de l'homme théorique. Il y voit, je cite toujours, un signe d'épuisement, de maladie, de la dissolution anarchique des instincts. Et une nouvelle fois, Nietzsche renverse les représentations communes, ce qui est conçu comme l'apogée de l'art et de la civilisation grecque, pourrait bien être, à l'inverse, le signe d'un déclin, d'un épuisement, d'une dégénérescence. On a très souvent chez Nietzsche des métaphores médicales. Ça se comprend aussi par le fait que la santé était aussi une obsession quotidienne chez lui, qui était tout le temps malade. Alors, cette idée de démesure dionysiaque, qui s'oppose à la mesure apollinienne, ça permet à Nietzsche de tracer un parallèle avec la dissonance musicale, avec tout ce qui fait écart par rapport à la stricte mesure de l'harmonie musicale classique. Et selon lui, la dissonance musicale, ça produit un plaisir qui est comparable à celui qu'engendre le mythe tragique. L'introduction de la démesure dans ce qui est la mesure. La dissonance, c'est l'introduction de la démesure, d'un écart par rapport à la mesure strictement apollinienne. Et ça, c'est un point où il rencontre Wagner, parce que Wagner est précisément un des premiers musiciens à introduire de la dissonance dans ses œuvres. Et c'est spécialement le cas dans Tristan, qui est une des premières œuvres à solliciter autant la dissonance. Et Wagner, à ce titre, plus tard, sera une référence revendiquée par l'école de Vienne, ce qu'on appelle la seconde école de Vienne en musique, c'est-à-dire ce qui regroupe des musiciens comme Alban Berg et surtout Arnold Schoenberg, c'est-à-dire ceux qui vont être les initiateurs du dodécaphonisme, qui introduisent des formes de dissonance dans la musique. Alors, je vais en donner un exemple avec l'ouverture du troisième acte de Tristan et Isolde, qui me semble assez significatif de ça. Donc, c'est l'orchestre du Festival de Bayreuth, dirigé par Carl Böhm dans un enregistrement de 1966. Voilà, donc c'était donc le prélude au troisième acte de Tristan et Isolde. Donc, selon Nietzsche, par l'introduction d'un peu de démesure dans la mesure musicale, Wagner serait aussi retrouverait cette inspiration de la tragédie par cette union d'Apollon et de Dionysos. Alors, il y a d'autres plans sur lesquels la musique de Wagner paraît introduire, en tout cas semble à Nietzsche de ne pas faire deux choses en même temps, réconcilier Apollon et Dionysos, c'est la manière dont il articule la musique et le texte. dont il réconcilie la musique et le texte sans que l'un soit subordonné à l'autre, et en accordant également à la musique un pouvoir évocateur majeur. Alors, il prend justement Tristan et Isolde pour exemple en disant, c'est assez amusant aujourd'hui de lire ça, en disant que quelqu'un qui écouterait le troisième acte sans le texte ni voir le jeu des acteurs aurait malgré tout accès à la force émotionnelle de l'œuvre. Alors c'est écrit évidemment avant l'invention du disque. C'est l'expérience la plus fréquente maintenant de ne pas être dans l'opéra. Cette œuvre, ce qui rend possible cela, c'est qu'elle exprime, je cite, une volonté universelle, un désir d'exister, comme réalité les plus universelles dont seule la musique est capable de nous parler directement. Alors, ça donne l'occasion d'évoquer un aspect de l'œuvre de Wagner que j'ai peu évoqué la semaine dernière, qui est sa conception de l'opéra, ou plutôt du dépassement de l'opéra. J'avais évoqué la semaine dernière le fait que les avant-gardes artistiques doivent s'inscrire dans le registre de la rupture avec les conventions antérieures, et Wagner, il a pleinement joué ce jeu-là, en manifestant sa volonté de rompre avec les codes de ceux qui dominaient l'opéra à son époque, notamment Meyerbeer et Rossini. Alors, cette conception renouvelée de l'opéra, c'est ce que Wagner va théoriser comme le drame musical, c'est-à-dire quelque chose qui suppose une plus grande intrication entre les dimensions respectivement musicales et théâtrales de l'œuvre. C'est-à-dire qu'on n'a plus, comme dans les opéras précédents, des moments de musique avec des airs qui sont chantés, des moments de récitatif, c'est-à-dire les personnages qui parlent, qui dialoguent sans chanter. C'est ce que Nietzsche stigmatise comme de la musique descriptive, qui est une simple servante du texte, qui ne fait qu'accompagner le texte. Et l'essentiel du sens de ce qui se trame dans l'œuvre, c'est le texte qui le dit. Mais la musique est simplement une accompagnatrice. Alors que chez Wagner, et c'est l'idée chez lui de la mélodie infinie, tous les textes sont chantés, d'une part. On n'a plus de récitatif, mais la musique contribue directement à l'action. L'orchestre ne fait pas qu'accompagner, puisque la musique s'identifie au personnage. Et ce qui contribue à cette participation de la musique à l'action, c'est ce qu'on appelle le leitmotiv, qui est quelque chose de central dans la musique de Wagner. C'est-à-dire que à chaque personnage, ou à chaque entité pertinente de l'opéra, de l'intrigue, et associer un motif musical. Et le fait que l'orchestre joue le motif musical à tel moment de l'action renseigne sur ce qui est en jeu dans l'action. Et ce n'est pas simplement ce que se racontent les personnages qui est important, c'est également ce qui est en train de jouer l'orchestre qui nous fournit des informations supplémentaires. C'est-à-dire que si le personnage de Wotan dans Le Crépuscule des Dieux, donc son motif qui est associé à ce personnage est joué par l'orchestre sur une scène où Wotan n'est pas présent, le chanteur qui le joue n'est pas physiquement présent, ça veut dire que malgré tout, ce personnage est pertinent dans la scène. Donc l'orchestre contribue véritablement à l'action et ça joue un rôle dans la composition, c'est-à-dire que les séquences musicales sont aussi faites d'un entrecroisement, d'une intrication de motifs. Alors, je vais en donner un exemple qui me semble assez représentatif, qui est un morceau qui est connu comme le Voyage sur le Rhin de Siegfried. Donc, c'est au début de la quatrième journée, donc du Crépuscule des Dieux. Donc où il n'y a pas de chant, mais l'orchestre nous joue un ensemble de thèmes qui sont associés à Siegfried, qui sont associés à l'anneau, qui sont associés au Rhin. Chacun des thèmes exprime, met en scène ces entités ou ces personnages. Et donc c'est l'orchestre de Bayreuth dirigé par Pierre Boulez. C'est un enregistrement du début des années 80. Alors, je passe maintenant au deuxième texte important où Nietzsche s'adresse directement, discute, dialogue directement avec l'œuvre de Wagner, qui est donc la considération inactuelle, la quatrième considération inactuelle qui s'intitule Richard Wagner à Bayreuth, et donc qui a été rédigée dans le contexte de la construction du théâtre, qui doit accueillir les œuvres de Wagner, et en préparation du premier festival, donc qui aura lieu en 1876. Alors, ça reste, c'est toujours, dire Nietzsche est toujours plein de dévotion à l'égard de Wagner, c'est un texte extrêmement hagiographique, qui célèbre le génie de Wagner. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Nietzsche décrit Wagner comme un dilettante. Alors, ça n'a pas forcément à l'époque et en allemand le sens un peu péjoratif que ça a aujourd'hui, tout au moins en français, mais c'est une manière d'insister sur le fait que Wagner, dans sa jeunesse, je l'avais évoqué la semaine dernière, a beaucoup hésité entre différentes possibilités intellectuelles ou esthétiques, fait de la poésie, de la musique, de la philosophie, bon, il a essayé de toucher un petit peu à tous les arts ou à toutes les disciplines, en hésitant beaucoup, et puis, bon, finalement, ça a donné donc la forme d'opéra, le drame musical qu'il a fini par produire. Et il dit, ces années de jeunesse, de formation, ont permis à Wagner de faire appel à tous les arts en vue d'une grande révélation théâtrale. Bon. Alors, c'est un texte, la considération inactuelle, qui est sans doute mineure dans la pensée de Nietzsche. C'est pas le texte où on trouve les éléments les plus importants et les plus originaux de sa pensée, mais on commence à voir poindre aussi des éléments qui prendront une importance plus tard. Et on peut considérer que c'est un texte de transition. Alors, transition parce qu'il poursuit la réflexion sur l'art grec, que je viens d'évoquer, mais également parce que ça annonce la critique du christianisme qui viendra un peu plus tard. Wagner, selon Nietzsche, a renoué avec l'art grec, dont l'esprit s'était dilué ou estompé dans le christianisme. Je cite, avec Wagner, « l'esprit de la culture hellénique plane, extrêmement diffus sur notre présent ». Wagner est un inventeur de mythes, donc contre l'esprit de mesure, de l'esprit scientifique, théorique, rationnel, qui est prêté à Socrate. Et le public de Bayreuth, celui qui viendra lorsque le festival sera ouvert, ce n'est pas encore le cas, il est, comme consommateur de mythes, inactuel. Il dit « leur patrie est ailleurs que dans le temps présent ». Les mythes que crée Wagner aussi, selon Nietzsche, il les recueille aussi dans le peuple, où ils se sont dégradés sous la forme du conte, ce qui permet à Nietzsche d'invoquer le peuple, de donner à son discours, on dirait, une tonalité un peu populiste, mais pour aussitôt déposséder le peuple de ses mythes, pour en confier la régénération ou la révélation avec l'artiste avec un grand A, qui est Richard Wagner. C'est-à-dire que Wagner puise dans des légendes populaires et il les transcende, il les magnifie, il les sublime dans ses opéras. Dit que Wagner est révolutionnaire par compassion envers le peuple. Alors, la remarque, elle est fondée, parce que, notamment dans les maîtres chanteurs de Nuremberg, c'est aussi une forme de dépossession de l'art populaire, de l'art du chant, qui est réalisée par un noble, Walter, qui participe au concours de chant, parce que le grand prix du concours, c'est la main de la jolie fille du coin. Mais Walter commet aussi des fautes par rapport à l'art du chant. Il y a un personnage ridicule qui est Beckmesser, qui est là pour comptabiliser toutes les fautes que commet Walter. Mais en fait, ce ne sont pas des fautes, c'est l'invention d'un nouvel art qui a puisé dans l'art populaire du chant pour en faire quelque chose de supérieur. Et d'une certaine manière, Wagner puise dans l'art populaire, mais pour en faire quelque chose de supérieur, c'est-à-dire ses opéras. Donc on retrouve quelque chose d'important chez Nietzsche, qui est une forme d'aristocratisme en tout cas ici culturelle. Hein? Parce qu'il a fallu un génie, Wagner, pour révéler tout le potentiel de, entre guillemets, la culture populaire, de ce fond de légende ou de musique populaire. Alors, ça, l'aristocratisme, j'y reviendrai, c'est quelque chose d'important chez Nietzsche. On retrouve également dans ce texte la thématique de la vie, hein, qui ne s'appelle pas encore volonté de puissance, mais pour Nietzsche, Wagner est celui qui a réconcilié la musique et la vie. Et la vie est ce qui est opprimé dans la société que Nietzsche décrit avec le règne de la vulgarité, d'un art dégradé et du règne de l'argent. Hein, il dit « Cette époque est vulgaire, on le remarque au seul fait qu'elle honore ce que méprisaient les époques antérieures nobles. » Donc on retrouve une nouvelle fois ce thème de l'aristocratisme, de la noblesse, dont il y aurait une forme de nostalgie. Et on sent poindre la valorisation du supérieur sur le commun, qui sera quelque chose que Nietzsche développera beaucoup plus fermement par la suite. Hein. Et la dénonciation, c'est solidaire aussi de la dénonciation de l'esprit démocratique qui nivelle par le bas. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans ce principe nietzschéen qu'il faut protéger les forts contre les faibles. Alors, c'est évidemment entendu au sens politique, ça fait frémir. Il faut protéger les forts contre les faibles. Entendu d'un point de vue esthétique, il me semble que ça se défend. Vaut mieux privilégier les grands artistes, les bons artistes contre les médiocres. Bon. Alors, il y a l'ambiguïté chez Nietzsche. Hein, je ne suis pas en train de faire une lecture tronquée. La philosophie de Nietzsche est aussi très une esthétique. Alors Wagner, de ce point de vue, au moins quand Nietzsche écrit ce texte, hein, il est du côté du surgissement de la vie. Hein. La nature débordante et envahissante de Wagner, nous dit Nietzsche. Et Nietzsche nous parle d'une nature qui, elle-même, endurcit le corps et le rend plus robuste. Elle ronge d'autant moins la vie qu'elle la rend plus vivante. Elle gouverne l'homme comme une passion ailée et lui donne des ailes au moment où son pied s'enlise dans le sable et où s'est meurtri sur le roc. Hein? Donc on a tout de suite l'imagerie d'un personnage robuste, passionné, qui est le personnage de Siegfried, hein, le héros qui ignore la peur et qui va affronter ce que tous les autres redoutent. Hein? Alors ça prend dans les écrits de Nietzsche parfois l'idée de la, je cite, la superbe brute blonde, avide de victoire, et on sent que c'est appropriable idéologiquement cette thématique-là. Hein. Et elle existe aussi chez Nietzsche. Donc Wagner, il est du côté de la vie parce qu'il est du côté d'un débordement de puissance et de force vitale, mais aussi parce qu'il lui donne une expression musicale. Hein, Nietzsche dit qu'il a donné un langage à tout ce qui dans la nature ne consentait pas encore à parler. Aurore, forêt, brouillard, précipice ou sommet, etc. Et on retrouve l'idée de ce qui se retrouve dans le deuxième acte de l'opéra Siegfried, c'est l'idée d'un oiseau qui chante et que Siegfried peut comprendre, hein, qui parle au personnage. Et aussi le leitmotiv qui exprime une série d'entités comme la forêt, comme un certain nombre de puissances de la nature. Donc, Wagner, selon Nietzsche, est un artiste supérieur parce qu'il est l'inventeur d'une forme esthétique nouvelle qui englobe différents arts et qui exprime la vie, la volonté d'existence de la vie. Et pour exprimer cette forme d'art supérieur, il faut un cadre à la mesure du génie de Wagner, c'est-à-dire Bayreuth. Alors, le souci, c'est que Bayreuth a été construit pendant que Nietzsche rédigeait sa considération inactuelle, et quand le festival ouvre pour la première fois en 1876, Nietzsche s'y rend plein d'impatience, et le problème, c'est que ce qu'il va y voir le déçoit considérablement, et il y voit une imposture. Et c'est là que ça commence à se fissurer. Alors, non seulement il trouve que c'est les vieux artifices du vieil opéra qui sont présents dans les mises en scène, mais il y voit aussi une célébration de Wagner qui l'agace, parce que ça relève à ses yeux d'une forme de dévotion vulgaire au lieu de l'exaltation de l'artiste qu'il veut célébrer. Hein. Il voit les Wagneriens comme un troupeau de disciples, une plèbe, Et on conçoit que ces valeurs aristocratiques soient déçues de voir que le commun, le vulgaire, peut aimer Wagner. Hein? En termes bourdieusiens, si on se réfère à la théorie de la distinction chez Bourdieu, tout le potentiel de distinction que recélait l'œuvre de Wagner, lorsque c'est un plaisir rare pour des gens introduits dans une œuvre exigeante, ça disparaît. Si n'importe qui peut aimer ça, j'ai des goûts vulgaires. Or, je veux avoir des goûts aristocratiques. Donc, il est un peu pris en défaut sur ce plan-là. Ce qui l'agace aussi superbement, en tout cas, c'est ce qu'il racontera quelques années plus tard, c'est la célébration dans Wagner, au moment où s'ouvre Bayreuth, la célébration d'un génie proprement allemand. Or, dans sa considération, dans le texte, Nietzsche décrit le génie de Wagner comme au-delà de ce qui est allemand. Il dit « la langue de son art ne s'adresse pas à des peuples, elle s'adresse à des hommes ». Et on est effectivement, 1871, fondation de l'Empire, victoire sur la France, et on est dans une phase de nationalisme allemand, on est au moment de l'unification de la nation allemande, donc phase de nationalisme exacerbé, à laquelle Wagner participe parce qu'il a Cosima qui le pousse, enfin il n'a pas besoin d'être beaucoup poussé, mais en tout cas il participe de cela, et c'est quelque chose qui heurte profondément Nietzsche, hein, même s'il a eu lui aussi une phase d'exaltation nationaliste. Donc ça lui pose problème. Et puis ce désaveu de l'Allemagne tient aussi à son rejet du christianisme, qui devient de plus en plus violent, et qui passe par sa valorisation de ce qu'il appelle la morale des seigneurs, hein, dont la Renaissance a été un des derniers moments. La Renaissance, selon lui, ça a été une période de triomphe de la vie, le moment où les valeurs aristocratiques, hein, ce qu'il appelle la morale des seigneurs, ces valeurs aristocratiques qui disent oui à la vie, préparer l'avenir, le problème, c'est que c'est d'Allemagne qu'est venue la fin de la Renaissance, avec celui qu'il appelle le funeste moine Luther, et au moment même où le christianisme était en position de faiblesse. C'est-à-dire que la culture, la civilisation de la Renaissance, c'est un retour à l'Antiquité, c'est un affaiblissement du christianisme, et manque de chance, vous avez une régénération du christianisme avec la réforme protestante, et à nouveau un affaiblissement de la morale des seigneurs par la régénération malencontreuse de la morale chrétienne. Et puis, solidaire de ça, je l'ai déjà évoqué, c'est le fait que, juste après Bayreuth, l'ouverture de Bayreuth, Wagner s'attelle à l'écriture de Parsifal. Et notamment, il y a une anecdote que Nietzsche raconte, c'est que Wagner lui envoie en signe d'amitié un exemplaire du livret de Parsifal. Il n'a pas encore composé la musique, mais il a déjà le texte. Et avec cette dédicace, à mon cher ami Friedrich Nietzsche, Richard Wagner, membre du consistoire évangélique. Et là, Nietzsche, de commenter sa déception, incroyable, Wagner était devenu pieux. Et plus tard, donc c'est la préface à Humain trop humain, il écrit « Wagner s'effondra soudain, impuissant, brisé, au pied de la croix chrétienne ». Et effectivement, Parsifal, j'ai déjà dit, c'est quelque chose qui est profondément chrétien, c'est une histoire de rédemption, ça tourne autour du Graal, et en plus, qui plus est, avec un héros qui est défini par sa chasteté. Et le problème, c'est que le Christ est devenu l'objet d'une détestation chez Nietzsche aussi grande que Socrate. Et que Wagner se dise rallié à l'évangile, c'est vécu comme une trahison. Parce que Dionysos, dans le tragique, pose que la vie affirme et justifie la souffrance. La souffrance est le triomphe de la vie. Elle lui est inhérente, donc la tragédie doit susciter la joie, dans la vision de Nietzsche. À l'inverse, dans le christianisme, la souffrance met la vie en accusation. Le christianisme, tel que en tout cas Nietzsche nous le décrit, Le christianisme considère que la vie est injuste, qu'elle est coupable, parce qu'elle souffre. Et elle doit souffrir puisqu'elle est coupable. Donc, selon Nietzsche, le christianisme nie la vie, il s'oppose à elle au moyen de la culpabilité, de la mauvaise conscience, hein, puisque les hommes sont là pour expier la mort du Christ. Et c'est dans ce sens-là que le christianisme relève du nihilisme. Hein, selon Nietzsche, pour Nietzsche, le nihilisme, c'est la négation de la vie. Et ça prend les formes principales du ressentiment, de la mauvaise conscience, de la culpabilité, de l'esprit de vengeance, alors qu'à l'inverse, Nietzsche valorise l'oubli, parce qu'il assure la perte du sentiment d'une faute. Également, le christianisme, il est détestable pour Nietzsche, il nie la vie parce qu'il valorise l'ascétisme, hein, qui est une complaisance dans la maladie et la faiblesse. C'est le déni de la vie, de la force et de la santé. Le christianisme fabrique la culpabilité et la douleur, mais il les entretient toutes les deux. Hein. La douleur est la sanction de la culpabilité, mais en même temps, elle est ce qui lave la faute. Du coup, ça s'entretient dans une espèce de cercle vicieux. À l'inverse, hein, ce que valorise Nietzsche, c'est le surhomme, c'est le héros du type Siegfried, qui ignore la peur, qui ignore la culpabilité, qui bouleverse tout sur son passage, et qui n'a pas le sentiment de la faute parce qu'il n'a aucun sens de ce qu'est la faute. Hein. Parce qu'il est simple affirmation de la vitalité, affirmation de la vie. Alors, Siegfried est nietzschéen, si vous voulez. Le problème, c'est que Richard Wagner le fait mourir à la fin. Hein. Et, bon, j'y reviendrai bientôt. Donc, vous voyez que avec... à peine l'encre de la considération inactuelle était sèche que déjà ça se lézarde dans leur relation. Hein. Et l'ouvrage suivant qu'écrit Nietzsche, donc Humain trop humain, il l'envoie à Wagner, les courriers se croisent. Hein. Nietzsche envoie son bouquin à Wagner et Wagner envoie le livret de Parsifal à Nietzsche et ils échangeront plus aucun message, plus aucune lettre parce que voilà, là, manifestement la rupture est consommée, ils ne sont plus sur les mêmes longueurs d'onde. Alors, l'ouvrage maintenant que j'évoquerai de Nietzsche, qui est plus tardif, c'est le cas Wagner, donc qui est spécifiquement consacré à Wagner. Il est écrit après la mort de Wagner. Et c'est également à la fin de la vie consciente de Nietzsche. Hein. Donc, dans ses précédents ouvrages, Nietzsche ne s'est pas dispensé de coups de griffe contre Wagner, mais là, il règle définitivement ses comptes avec lui. Alors, ce qui est un peu ironique, c'est que, je viens de le dire, Nietzsche célèbre l'oubli et dénonce le ressentiment. Et quand même, 5 ans après la mort de Wagner, il ne l'a pas oublié et il a encore des choses à lui reprocher. Hein. Alors, par ailleurs, le livre montre aussi une forte ambivalence, c'est-à-dire qu'il reste dans certaines pages l'expression d'une très grande admiration de Nietzsche pour Wagner. Mais quand même, l'essentiel du propos est très critique. Alors, de manière assez provocatrice, le livre s'ouvre sur l'éloge de la musique de Bizet, et spécialement de Carmen, que Nietzsche dit avoir vu une vingtaine de fois. Alors, effectivement, l'opposition est assez radicale d'un point de vue musical. Elle se laisse aussi comprendre par d'autres oppositions qui lui sont liées, comme celle entre le nord et le sud, entre le soleil du midi contre les brumes du nord, la santé contre la maladie. Hein, et Nietzsche, il est en Italie pour se restaurer sa santé. Hein. Donc c'est l'opposition de la santé et de la vigueur que Nietzsche affirme avoir retrouvée contre la maladie. Et la maladie, c'est Richard Wagner, dont Nietzsche serait parvenu à se débarrasser. Donc, Wagner a changé de polarité, il n'est plus du côté de la vie, mais il est du côté de la maladie. Et Nietzsche dit que c'est une névrose qui n'attire que des esprits affaiblis, dégénérés et débiles, qui sont attirés par sa musique comme en se complaît dans son état dégradé. Un être épuisé est alléché par ce qui lui fait du mal, un végétarien l'est par les légumes. Bon, je vais une nouvelle fois... Alors, Il va user beaucoup du registre physiologique et psychologique, hein, pour les effets d'une consommation de Wagner sur l'organisme et sur l'esprit. Donc j'ai dit, c'est un registre médical qu'on retrouve fréquemment chez lui. Et puis, bah, parce que c'est une préoccupation centrale dans son existence. Alors évidemment, c'est du registre de la métaphore, hein, cette maladie du wagnérisme. C'est aussi la morale qui conduit à une vie appauvrie, hein, au vouloir mourir à la grande lassitude. La musique de Wagner s'oppose à la vie, à la volonté de puissance, et c'est de l'avoir réalisé que Nietzsche dit avoir pu en réchapper. Alors, je cite, « Se venger de la vie en s'en prenant à la vie même, c'est là, pour ces appauvris, c'est-à-dire les Wagneriens, l'ivresse la plus voluptueuse. » Et, je l'ai dit, la musique de Wagner met au second plan la mélodie, parce que elle rompt avec l'ancien opéra où on valorise les airs. Hein. Et donc c'est un plaisir que la musique, c'est un plaisir musical que la musique de Wagner serait en train de nier. Hein. Donc c'est un refus du plaisir, une négation de l'hédonisme au profit du recueillement ou du sérieux. Donc ça serait quelque chose de bigot, de chrétien, au final, qui rejoint la valorisation de la chasteté dans Parsifal, et c'est la négation de la vie. Et Wagner, c'est, et sa musique, maintenant, à présent, pour Nietzsche, c'est la valorisation de la décadence. Hein, c'est l'exemple parfait de la décadence, et ça s'explique par le fait que la vie est absente de son œuvre, la vie n'anime plus l'ensemble, partout paralysie, peine, engourdissement. Il y a un deuxième reproche qui, à mon sens, est plus intéressant, qui porte sur le ring, sur la tétralogie, donc, et sur cette fameuse histoire du destin de Siegfried. Hein. Alors, je l'ai dit, c'est une œuvre que Wagner a mis longtemps à composer, avec une interruption de 12 ans entre le premier et le deuxième acte de Siegfried. Et Nietzsche fait remarquer que quand Wagner a commencé à l'écrire, dans les années 1850, il était encore révolutionnaire. Et sa conception de l'œuvre et sa conception du personnage de Siegfried en portaient encore la trace. Hein. Siegfried, c'est celui qui révolutionne tout, qui porte le chaos, qui est né du chaos lui-même, vu qu'il est né d'un adultère et d'un inceste. Et Siegfried, c'est le triomphe de la volonté de puissance. Hein. Il ignore la peur, il bouscule tout, y compris les divinités plus anciennes. Hein. J'ai dit, je ne sais plus si je l'avais dit la semaine dernière, c'est lui qui casse la lance de Votan, qui envoie les anciens dieux à la retraite et au crépuscule. Bref, Siegfried, c'est le révolutionnaire qui renverse l'ordre ancien pour en instaurer un nouvel ordre, qui serait purgé du malheur du monde. Le souci, selon Nietzsche, c'est que pendant ces 12 années qui ont bloqué pendant lesquelles la création de l'œuvre a été interrompue, eh bien, Wagner s'est échoué sur un récif qui est la philosophie pessimiste de Schopenhauer. Qu'avait-il mis en musique ? L'optimisme. Alors Wagner en fut honteux. Et donc Wagner, je viens de citer Nietzsche, Wagner aurait réorienté son récit pour lui donner un cours pessimiste conforme à la pensée de Schopenhauer. Je cite, « Tout va de travers, tout court à sa perte, le nouveau monde est aussi mauvais que l'ancien. » Initialement, dans les premiers projets de Wagner, l'œuvre, notamment au travers du personnage de Brunehild, devait proclamer l'avènement d'un monde nouveau, celui des humains qui succèdent aux dieux dont on vient d'assister au crépuscule. Bah, c'est sur un constat de vanité que se termine le Ring. Je cite Nietzsche, parce que c'est lui qui le dit encore le plus clairement. Brunehild, selon l'intention première, devait prendre congé sur un hymne au libre amour en faisant miroiter à nos yeux une utopie socialiste où tout finit bien. Brunehild a maintenant autre chose à faire, il lui faut d'abord étudier Schopenhauer. Donc ce qu'il reproche surtout à Wagner, c'est d'avoir sombré dans le christianisme avant même Parsifal au travers d'une focalisation sur le salut. C'est un autre reproche, pardon, j'ai pas fait la transition. Les héros des opéras de Wagner sont des pêcheurs qui doivent être sauvés. Hein, le Hollandais dans le vaisseau fantôme qui est sauvé par Senta, Tannhauser est sauvé par Elisabeth, Kundry est sauvée par Parsifal, Elsa par Lohengrin, Eva par Walter, Isolde par Tristan. Et Nietzsche ironise sur le fait que cette idée très religieuse et de haute valeur morale de la rédemption, du rachat des péchés, ça prend les formes banales du mariage bourgeois, même s'il est souvent contrarié. Il dit aussi que les héroïnes des opéras de Wagner ressemblent à s'y méprendre à Madame Bovary. Et ça, on le verra la semaine prochaine, mais Adorno lui aussi va pointer cette similarité avec ce modèle du couple bourgeois. Mais ce qui est surtout important, c'est que pour être racheté et sauvé, il faut au préalable avoir fauté. Il faut avoir péché et le savoir. Alors que Nietzsche valorise à l'inverse l'irresponsabilité, l'oubli des fautes commises ou subies, l'absence de toute culpabilité qui entraîne vers le ressentiment et la mauvaise conscience, ben c'est la faute qui domine l'œuvre de Wagner, et spécialement dans Parsifal. Et puis on trouve aussi dans ce livre, donc qui est tardif, hein, où la pensée de Nietzsche a été mûrie hein, au fil des années, ce qui n'est pas le cas des premiers écrits que j'ai cités, hein, La naissance de la tragédie et La considération inactuelle. Donc il y a une formalisation assez claire de ce à quoi Nietzsche s'oppose et de ce qu'il déteste dans le christianisme. Hein. Je l'ai dit, il y a d'un côté chez lui ce qu'il appelle la morale des seigneurs, c'est-à-dire la morale romaine, païenne, classique de la Renaissance. Hein. Ce sont des périodes où cette morale aurait triomphé. C'est le langage de la réussite physique, de la vie qui monte, de la volonté de puissance en tant que principe de vie. Cette volonté de puissance, elle transfigure le monde, elle l'embellit. Hein. Et on retrouve l'idée esthétique. C'est l'art qui exprime la volonté de puissance, où la volonté de puissance s'exprime de manière privilégiée dans l'art. Et la morale des seigneurs, elle dit oui. Elle dit oui à la vie. Elle dit oui tout aussi instinctivement, nous dit Nietzsche, que la morale chrétienne dit non. Et il précise que l'au-delà, l'abnégation, sont des négations. Et que, donc la morale chrétienne dit non et qu'elle enlaidit le monde. La morale chrétienne, elle est un refus du monde. Et le terme de monde, dans le vocabulaire chrétien, a plutôt une valeur péjorative. La morale des seigneurs, à l'inverse, elle est création de valeur sans avoir besoin de se justifier, sur le mode de l'évidence positive de ce qui surgit de la vie. Et ce surgissement est à lui-même sa propre approbation. Alors, c'est la morale des seigneurs, donc elle a à voir avec l'aristocratisme. Donc elle est expression de singularité. Elle valorise le moi et elle l'affirme triomphalement, hein, comme une affirmation et une auto-célébration de la vie. À l'inverse, la morale chrétienne, elle en a honte, puisque le moi, il est déjà a priori chargé d'un péché qu'il va lui falloir expier ou racheter. Le moi est haïssable pour la morale chrétienne. Et ce que Nietzsche reproche finalement à Wagner, c'est d'avoir fréquenté la morale des seigneurs, la morale aristocratique, qui se retrouve dans la mythologie germanique et scandinave qui a inspiré la légende de l'anneau, hein, le ring. Mais, dans le même temps, il a professé la doctrine adverse, celle de l'évangile des humbles, du besoin de rédemption. Alors, on trouve aussi dans l'Antéchrist, hein, donc ça c'est un des textes que Nietzsche n'a pas pu rédiger, il n'a pas pu en tout cas en établir une version définitive. Hein. Donc dans l'Antéchrist, on trouve des formulations plus développées de cette opposition entre la morale des seigneurs, qui est du côté de la volonté de puissance, et puis la morale des faibles, hein, le christianisme, qui est du côté de la décadence, du nihilisme. Je cite ce texte, « La vie est instinct de croissance, de durée, d'accumulation de force, de puissance. Là où la volonté de puissance fait défaut, il y a déclin. » Et c'est donc du côté du christianisme qu'on trouve une des expressions de ce déclin, avec l'idée de la compassion ou de la pitié, qui est complaisance dans la faiblesse, et exaltation de cette faiblesse. Et à ce titre, la compassion, elle est hostile à la vie. Il y a aussi l'idée que le christianisme, il est basé sur le ressentiment. Hein, je cite, la base du christianisme, c'est la rancune des malades, leur instinct dirigé contre les bien portants, contre la santé. Tout ce qui est achevé, fier, exubérant, et avant tout la beauté, lui fait mal aux oreilles et aux yeux. Donc c'est une morale des esclaves qui est guidée par le ressentiment à l'égard des maîtres. Alors que la morale des guerriers aristocrates agit spontanément, comme expression immédiate de la vie, la morale des esclaves est réactive. Elle est réaction envieuse et ressentimentale, elle est la recherche haineuse d'une vengeance qui veut s'indemniser de sa faiblesse et de son impuissance. Alors, ce qui est associé à ça, dans la critique du christianisme nietzschéenne, c'est la dimension de religion universelle, qui s'adresse à tous et qui promet que le monde peut être, que tout le monde peut être sauvé. Donc c'est sa dimension démocratique, qui est en cela en rupture avec le judaïsme, qui est réservé à un peuple élu par Dieu. Nietzsche dit, c'est le grand nombre qui l'emporta, c'est le démocratisme des instincts qui triompha. Alors, par extension, c'est aussi l'anarchisme et le socialisme, qui sont des doctrines qui se développent à l'époque où, en cette fin du XIXe siècle, quand Nietzsche écrit, il les assimile au christianisme, parce que eux aussi veulent sauver le plus grand nombre dans une société basée sur l'égalité. Parce que les anarchistes, les socialistes, selon lui, sont également guidés par l'envie et la vengeance. Et ils sont également une expression de la pitié chrétienne, le refus de pousser son propre avantage, donc ils sont la négation d'un moi qu'il faudrait à l'inverse affirmer. Alors, à la fois on sent qu'il y a que ça laisse prise à une idéologie fasciste, ce type de discours. Ce qui est malgré tout assez ironique, même si c'est de l'ordre du détail, qui est assez ironique par rapport aux fascistes qui célèbrent dans Nietzsche une vision inégalitaire, c'est que ça débouche sur une valorisation de l'islam. Alors aujourd'hui, ça fait assez une certaine ironie, dont Nietzsche nous dit que c'est une religion qui devait le jour à des instincts aristocratiques, à des instincts virils, parce qu'elle disait oui à la vie. Alors, que retenir de tout ça pour conclure provisoirement ? Cette posture aristocratique, elle me semble intéressante lorsqu'on l'applique au domaine de l'esthétique, où je l'ai dit, où on peut concevoir de protéger les forts contre les faibles. Les bons artistes sont à valoriser contre les médiocres. Et en matière d'esthétique, peut-être plus que dans d'autres, le principe du tout se vaut apparaît faiblement légitime. Dans le même temps, on voit ce qui accompagne chez Nietzsche cette conception inégalitaire. C'est qu'elle relève aussi de rapports de forces sociaux, de logique élitiste de disqualification, par exemple de la culture populaire. Le fait que Nietzsche ait pris ses distances avec Wagner quand il a vu le troupeau des Wagneriens dévots à Bayreuth, ça a aussi à voir avec la perte des profits de distinction, je l'ai dit. Si tout le monde aime Wagner, je deviens moi-même commun. Donc cette question de la diffusion de la musique de Wagner, de son caractère populaire ou élitiste, il y a une vraie ambiguïté parmi la grande musique, c'est ce qu'il y a de plus populaire, Wagner aussi, la chevauchée, Valkyrie, choses comme ça. Cette question de la diffusion de la musique de Wagner, on la retrouvera la semaine prochaine en parlant d'Adorno. Merci.